Bonjour à toutes et tous. C'est chouette de voir autant de jeunes gens réunis pour cette journée d'études et pour cette discussion. Ces discussions, puisqu'on va enchaîner deux tables rondes. Donc là, voilà, ça c'est la première, mais tout de suite après, il y aura une deuxième réunissant artistes et chercheurs. Donc l'idée, c'est vraiment aussi d'entremêler ces voix différentes qui parlent de différents endroits, voire d'artistes qui sont aussi chercheurs. Enfin, il y a aussi des frontières qui sont plus poreuses. Peut-être juste pour celles et ceux qui sont là depuis jeudi, le lancement du festival, on arrive déjà un peu chargé de pièces, en tout cas, qui nous ont ouvert ces entre-là, entre voix, corps, cœur. Je pense notamment, peut-être de manière encore plus marquante, à la soirée d'ouverture de vendredi, puisqu'on a d'abord traversé avec quatre jeunes femmes la pièce Mute Maker de Flora Detraz, puis après avec 13 chanteurs-danseurs d'Antumulus, de François Chéniaud et Geoffroy Jourdain. Vraiment, ces questions, voilà, toutes ces pièces ont partagé des souffles, des cris, des rires, des chants, des mouvements, évidemment. Et la danse et la voix ont vraiment cohabité, collaboré dans ces espaces par une pratique de dissociation, de contagion, de polyphonie aussi, on en reparlera, mais il y avait vraiment cette question dans Tumulus de la polyphonie. Et puis il y a aussi peut-être des communautés qui sont construites sur scène à travers ces pratiques chorales ou de rapport voix et corps. Et puis peut-être aussi, donc, depuis samedi, il y a eu Una Doherty aussi avec Hope Hunt and the Ascension of Lazarus, qui elle peut-être entrelacée des voix et des corps depuis un autre endroit, depuis le bitume, depuis des cultures populaires, depuis aussi un rapport au corps peut-être plus poétique où la voix était moteur d'un mouvement, moteur d'un rythme aussi, d'un parler, d'un phrasé. Et puis hier soir, pour ceux qui étaient là, mais je pense que la plupart étaient là avec Erwan Akyun Larcher dans la pièce Ruine, où là on était dans un rapport encore plus intime, un espèce d'autoportrait qui passait, en tout cas qui a commencé par la voix, une voix enregistrée, puis après le chant et le passage par la musique et la voix au micro. Donc voilà, moi en tout cas j'arrive chargée d'un peu tout ça. Et je trouve chouette de commencer. Et puis évidemment, le festival va continuer à tirer ses fils parce que cette année, effectivement, il y a beaucoup de pièces en relation entre le voix et le corps. Donc je vais commencer donc à introduire cette première table ronde dont le titre exact est « Autour du cœur, histoire de voix et de corps ». Et effectivement, on va tirer peut-être un fil plus historique sur cette première table ronde. On va parler du cœur antique, évidemment. Michel Briand est là, c'est crucial. Mais aussi, on va parler d'histoire des noms donnés à la danse et d'une traversée comme ça historique dans différentes époques et cultures. Et donc on va le faire avec Michel Briand qui apportera cet aspect peut-être pour commencer. Michel, vous êtes professeur émérite à l'université de Poitiers, donc ici à Poitiers les personnes vous connaissent bien, membre du laboratoire Forelis, vous avez publié de nombreux ouvrages sur la danse, en anthropologie, en esthétique, et vous êtes aussi spécialiste des langues anciennes et de l'antiquité en tout cas, voilà. Et donc on va peut-être voir avec vous effectivement cette question des noms. Je vais juste présenter un peu tout le monde avant de commencer. Nous aurons aussi un autre aperçu historique avec Axel Locatelli, qui est à ma gauche, de cette question des cœurs, en tout cas cette question effectivement de relation voix-corps dans les cœurs, des cœurs de mouvement parlant dans les années 20-30. Donc Axel Locatelli nous présentera cet épisode pas si connu de l'histoire de la danse. Vous êtes docteur en danse, transcriptrice en cinétographie Laban. Vous êtes maître de conférence à l'université Côte d'Azur et vous êtes chercheuse associée au laboratoire danse, gestes et corporéité de l'université Paris 8. Et puis nous ferons enfin un petit bond jusqu'à aujourd'hui avec une jeune artiste chorégraphique mais aussi comédienne, ce qui est aussi intéressant par rapport à notre sujet qui donc a ces deux pratiques. Donc Claire Laverne, bonjour. Vous êtes originaire de Poitiers. Vous avez été formée au Junior Ballet d'Aquitaine mais aussi à la London Contemporary Dance School. Vous avez beaucoup travaillé notamment avec la compagnie Adéquate, je la cite parce qu'elle est aussi d'ici, compagnie du territoire. Et vous avez fait en 2019 une formation de voix pour la radio. Donc on parlait tout à l'heure, Céline Lajot parlait effectivement de ces voix sans corps. Peut-être on pourra effectivement évoquer ça. Et si vous êtes ici, c'est parce que vous créez et présentez demain, c'est ça ? 440 Hertz, un projet avec le chef d'orchestre Jean-Luc Tingot. où effectivement la gestuelle du chef d'orchestre, la relation à la musique, au corps, s'entremêle et peut-être fait écho aussi à la pièce de Mathilde Bonicelle, je ne sais pas si elle est déjà arrivée, qui est une artiste chorégraphique qui présentera Scapare aussi à partir de la figure du chef d'orchestre. Et je voulais juste peut-être avant de laisser Michel commencer effectivement cette question des rapports des voix et du corps, laisser planer des mots de Mathieu Bouvier, qui est un chercheur en art, qui dramaturge aussi, et qui a un très beau site qui s'appelle Pour un atlas des figures, qui est accessible en ligne. Et il a écrit un texte conférence, enfin c'est un article conférence qui s'appelle Le Proscenium, qui fait référence évidemment au théâtre antique et son organisation spatiale, et je vous en lis un très court extrait. Au centre de ce dispositif de vision, il y a l'orchestre, la place du cœur, avec ses amples mouvements, avec ses chants qui montent jusqu'aux collines. Le cœur occupe la place centrale du théâtre, c'est là qu'a lieu le spectacle, l'opsis en grec, le show. Au théâtre, c'est le cœur qu'on regarde. Et parce qu'il est le porte-parole de la cité, le cœur nous regarde. Je veux dire, le cœur nous concerne. Si le théâtre est une technique divinatoire, c'est d'abord avec les moyens du cœur. C'est le cœur qui est vraiment capable de convoquer l'invisible dans le visible, de manifester la force dans la forme. Quels sont les moyens du cœur pour créer cette voyance? La voix et la danse. Le nombre. Une orchestration des puissances de la voix et du corps, de la poésie et de l'espace, pour que la parole ressemble non pas seulement à ce qu'elle dit, mais aussi à ce qu'elle fait. Je laisse planer ces mots. Et Michel, je te laisse la parole.
Merci. Je trouve que c'est très bien, je ne m'y attendais pas, mais que tu partes de l'atlas des figures et la référence aux travaux de Warburg, par exemple, hein, l'historien de l'art. C'est-à-dire que l'utilisation que nous faisons des mots concernant la danse est un processus de longue haleine, et les mots, y compris le mot danse, le mot cœur, etc., ont une histoire longue, le mot orchestre également, qui nous amène directement à troubler les évidences que nous avons à notre époque. Je dis ça parce que quand j'ai vu que je serais amené peut-être à évoquer la relation entre danse et musique, de manière plus générale comme ça, j'étais confronté à une dichotomie qui, comme toutes les dichotomies, est à troubler et à interroger. En fait, les cultures ou les lieux de création artistique où il y aurait une séparation entre la danse et le chant sont extrêmement minoritaires. C'est comme les dichotomies corps et âme, par exemple. C'est comme la dichotomie animal et humain, voire espace et temps. Ce sont des dichotomies extrêmement minoritaires que nous prenons souvent comme des dichotomies évidentes, majoritaires, etc. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sujet à traiter dans cette journée d'études et dans ce festival, hein, mais c'est justement parce qu'il y a cette tension-là qui peut nous intéresser. Un des apports importants des études d'anthropologie culturelle ou jusqu'à les études de genre, la théorie queer, etc., c'est que les binarités simplistes ne fonctionnent pas. Il faut sans doute parler plutôt, dans le rapport entre le corps et la voix, de questions de gradualité, en fait, tout simplement. Et pour étudier cela, il m'a paru intéressant d'observer l'histoire des mots. Le simple mot « danse », par exemple, les étymologistes s'interrogent, il y a des discussions, etc., mais l'idée principale quand même nous oriente vers une vieille racine dite indo-européenne, ten ou den selon les langues, ou don également, qui exprime la notion de tension. Hein, c'est celle qu'on a, qu'on retrouve. Donc on retrouve le radical du mot danse dans le ton, la tonalité, l'intention, la tension, etc. Et on voit bien que là, dans cette notion-là, il n'y a pas de différence entre ce qui se passe au niveau du corps dans la danse, quand il y a des variations d'intensité, j'ai oublié l'intensité aussi, et ce qui se passe au niveau musical dans un chant, même si ce chant est produit par un robot, par exemple, comme je l'ai entendu tout à l'heure. Voilà, c'est-à-dire que dans la désignation même de la danse, la plus courante dans nos langues contemporaines, il n'y a pas à proprement parler de dichotomie. Sauf que l'histoire de ces langues modernes, dominantes, ont fait qu'on a pris l'habitude de les distinguer. Mais le sujet est très politique en réalité. Parce que si vous observez ce qui se passe dans la plupart des langues anciennes et dans la plupart des langues non occidentales, non d'indo-européennes, vraiment européennes comme le français, l'anglais, etc., vous vous apercevez encore une fois que cette dichotomie se réalise autrement. Je vous renvoie à un ouvrage assez grand public, mais justement très très intéressant, de Pierre Legendre, l'anthropologue, je ne me rappelle plus le titre, mais c'est sur les noms donnés à différentes notions dans quantité de langues du monde. Si j'ai le temps, à la fin, mais je pense que je n'aurai peut-être pas le temps, je dirai un peu ce qui se passe en japonais et en sanskrit, par exemple, en Inde, quand on désigne la danse et le théâtre, par exemple. En fait, c'est des cultures où ça peut être la même chose, tout simplement, sans différence. Et il étudie le vocabulaire de la danse, comment dans des langues africaines on désigne ce que nous appelons danse, mais en même temps aussi le corps, la société, enfin voilà, il y a toute une constellation comme ça de notions qui ont un rapport avec la danse et qui sont là aussi pour troubler, pour nous décentrer. Double décentrement géographique dans d'autres cultures que notre culture dominante, décentrement historique que je vais commencer maintenant. En grec ancien, il y a le mot choros que vous retrouvez dans chorégraphie, etc. Avec le premier emploi de chorégraphie qui est concerné plutôt la notation de la danse hein, que la composition, que la création artistique. Pareil, choros, je ne sais pas comment le traduire autrement qu'en disant chant, danse, en un seul mot, ou bien danse, danse, chant. Platon, dans les lois, dans le livre 2 des lois, évoque une notion encore plus complexe, encore plus importante politiquement et culturellement, qui est la notion de choreia, c'est-à-dire la capacité à s'intégrer dans un cœur, chantant et dansant. Et il considère dans ce passage-là que si on n'a pas de culture chorégraphique, si on n'a pas de choreia, c'est-à-dire la capacité, une sorte d'agency, hein, d'agentivité, à participer à un cœur en chantant et en dansant, on n'est pas quelqu'un d'éduqué. Et on ne peut pas devenir citoyen. C'est un bon substitut au service militaire, par exemple. C'est certain. Et il considère en même temps qu'il y a deux éléments dans cette choreia, dans cette culture du choros, qui sont d'une part ce que nous appelons vraiment la danse, c'est-à-dire orchésis, hein, qu'on va retrouver dans orchestre, je vais en parler après. Et l'autre élément, c'est le chant, qu'il appelle odé. C'est une distinction qui n'en est pas une, puisque, encore une fois, il n'y a pas l'un sans l'autre. Dans une tragédie, il n'y a pas de cœur qui simplement chanterait sans danser. C'est-à-dire que dans ces deux constituantes, il y a les questions d'intensité, j'ai oublié de parler du rythme, mais voilà, tout un ensemble d'éléments, les schémas, ce qu'on appelle les schémata, les figures, qu'elles soient musicales, vocales ou dansées, elles sont indissociables. Et vous retrouvez ça dans le mot comédie. Dans le mot comédie, il y a komos, qui est une danse carnavalesque. Un peu ce qu'on a fait tout à l'heure quand on chantait Frère Jacques, etc. Voilà. Notamment au moment du son des cloches. Voilà. Une danse, donc une danse de fête, souvent après un banquet bien arrosé. hein, dans les rues de Poitiers le jeudi soir, par exemple. Voilà, il y a des, il y a du comos comme ça. Mais c'est chanté. C'est chanté, c'est-à-dire qu'il y a l'audet aussi, hein, comme Mehdi. Voilà, ça c'est un premier exemple. L'autre terme important en grec, c'est le terme orchésis, qui lui délimite en effet la danse comme mouvement intentionnel, de préférence plutôt en chœur, dans la culture antique, en tout cas à époque vraiment grecque, archaïque et classique. Depuis le bouclier d'Achille dans l'Iliade, ces premiers endroits où on a ces noms de la danse, jusqu'à l'Empire romain. Après, à époque romaine, ça change un peu, le mot orchésis désigne autre chose. Et c'est quelque chose qui se déploie au théâtre, et qui se déploie au théâtre, notamment dans la partie du théâtre grec qu'on appelle l'orchestra, qui est ce demi-cercle au pied des gradins. C'est l'endroit absolument central pour cette culture chorégraphique, qui est aussi, vous l'avez compris, une culture politique, à partir de la citation que tu as donnée tout à l'heure. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'en 2500 ans, le mot orchestra a complètement changé de sens à partir du moment où on s'est appliqué à distinguer la musique d'un côté, et notamment instrumentale, et la danse. C'est-à-dire que ce lieu semi-circulaire où évoluait le chœur chantant et dansant, qui était au centre de la communication entre le spectacle rituel et puis le public qui intervenait, et qui était constitué d'ailleurs d'amateurs, hein, de futurs citoyens, etc., est devenu la fosse d'orchestre avec la danse et le chant, souvent séparés, qui apparaissent sur la scène derrière. Et avec une situation de communication différente aussi, des possibilités d'identification différentes entre les spectateurs et les professionnels qui sont sur la scène. Ensuite, à époque romaine, orchésis s'est résumé, s'est focalisé sur le genre dominant de l'époque, qui était la pantomime. La pantomime gréco-romaine. Et il se passe là quelque chose de tout à fait intéressant. Alors, c'est les grandes stars de l'époque, hein. Il y avait vraiment des milliers de gens qui allaient, certains danseurs de pantomime, y compris ici dans la région, hein, étaient parmi les personnes les plus riches, en fait. Enfin, c'était vraiment, il y avait un star system avec des tournées, choses comme ça. Ils représentaient la mythologie, tous les personnages, de la mythologie, de certaines scènes mythologiques. Ils ne chantaient pas. En revanche, il y avait des instruments, par exemple des semelles métalliques, etc., pour marquer le rythme. Enfin, il y avait différentes choses. Donc, il y avait du son. L'histoire était racontée, évoquée par un chœur extérieur. Donc là, c'est le moment où la danse commence à se séparer du chant. Mais elle est en relation continuelle, parce que ce qui était apprécié par le public, c'était la capacité mimétique du danseur de pantomime, qui lui était muet, d'autant plus qu'il était doté d'un masque, et de sa capacité à se métamorphoser, à représenter non seulement les personnages, mais le décor, hein, la tempête, toutes ces choses-là. Donc c'est là que, dans notre culture, en tout cas occidentale, commence à apparaître une différence. En latin, cette pantonyme-là, elle s'est appelée saltatio. C'est-à-dire que, en fait, ce qui intéressait les gens, cette culture-là, c'était plus le chant. Hein, du coup, le chant disparaît. C'est plutôt ce qui concerne les pieds, les mouvements des pieds, les sauts, les bonds, les choses comme ça. C'est ce type de virtuosité. Mais je viens de vous dire quelque chose qui est un peu faux, parce que pour les Latins, la saltatio était, impossible à distinguer de la gesticulatio, ce qui a donné la gesticulation, c'est-à-dire l'art, y compris tragique, des gestes. Et c'est là que vous retrouvez dans cette pantomime une association entre corporéité et plutôt non pas voix, mais discursivité. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle la gesticulature en latin, en grec, ça s'appelle la chironomia, c'est-à-dire la loi, le code des mains. Le chirurgien, c'est celui qui travaille de ses mains. Donc il y a peut-être une ressemblance entre pantomime et... c'est quelque chose que vous reconnaissez, que vous retrouvez dans une autre culture, en Inde, en danse Bharatanatyam. Natya qui veut dire à la fois danse et théâtre, et Bharata c'est juste Inde, quoi. Enfin, l'Indien, vous avez la pratique de ce qu'on appelle les mudras, hein, c'est-à-dire les gestes des mains associés aux expressions faciales et à différentes autres choses, qui signifient quelque chose. En général, le poème... c'est plutôt du poème, et chanté par ailleurs. Il peut y avoir un acteur qui accompagne le danseur ou la danseuse. Mais vous avez donc un système où, finalement, la voix n'est pas exprimée, enfin, elle est exprimée par une entité différente du danseur, mais lui-même, il a une voix muette par ses mains et son visage. Et donc ça, c'est ce qu'on avait vraiment dans cette pantomime gréco-romaine, à l'instar de ce qui se passait. Voilà. Dernière expression importante, peut-être, je passe sur d'autres détails, mais importante en latin, c'est l'invention du mot, du verbe « ballare », qui, au départ, vient du grec, comme souvent, qui vient d'un verbe « ballo », qui veut dire « jeter », »,« lancer ». Dans la balistique, par exemple. Voilà. C'est de lancer notamment une arme de jet. C'est une métaphore assez courante dans cette culture-là aussi, qui est que les paroles sont des choses que l'on lance, des flèches qui atteignent leur cible quand elles arrivent à convaincre, par exemple, ou à transmettre une impression forte, ou à exprimer quelque chose. C'est d'abord dans un sens très très négatif. En fait, il faudrait le traduire. Le premier emploi, c'est chez Augustin. Comme pas mal de pères de l'Église, la majorité des pères de l'Église, enfin, il y a pire qu'Augustin dans ce domaine-là, il y a une condamnation, hein, de la danse et en particulier de la pantomime. Et bah, l'arrêt, c'est gigoter, hein, en fait. Gigoter, se tordre, un peu comme dans le komos grec que j'évoquais, ce qui est carnavalesque. Alors du coup, c'est évidemment condamnable, puisque ça indique de la part du performeur une perte de maîtrise de soi qu'il communique par contagion à son public, qui se le communique aussi entre eux, les mauvais effets de l'empathie pour ce public-là. Mais c'est pas seulement chrétien, hein. Chez Platon, on trouve des condamnations de la tragédie chez Platon. Platon aurait été opposé au rave party, des choses comme ça, où on se perd dans l'immersion, quoi. C'est pas du tout... voilà. Bref, bon, mais ça, c'est pas le sujet. Mais du coup, dans les langues romanes, on se trouve, et ça va être la boucle, la fin, on se retrouve à une... à deux champs sémantiques importants, qui seraient d'un côté la danse, hein, je vous rappelle que c'est autour de la tension, l'intensité, mais pas l'intensité continue, avec des variations, hein, évidemment, que ce soit musicale ou chorégraphique, ou plutôt les deux en même temps, et de l'autre côté, le ballare et le bal, etc., qui est plutôt du côté... de la possession qu'on a par une force. Et du coup, la voix qui apparaît là, c'est plutôt celle soit des instruments percussifs, soit la clarinette, le bois, enfin des choses un peu stridentes, etc., soit les cris. Et ça implique évidemment une danse également plus esthétique. Je trouve, je ne suis pas objectif, mais que l'histoire des mots est pleine de paradoxes, parce que par ailleurs, le mot ballet vient du bal, y compris le ballet classique. Donc on voit bien qu'entre la première modernité, 15e, 16e siècle, où on a commencé à employer le mot ballet en français tiré de l'italien pour évoquer plutôt des danses de bal, hein, donc des danses où le vertige est important, où les cris, le souffle, tout ça sont très importants, et qu'on est passé après les baroques à quelque chose de plus académique, c'est normal, après la création des académies par Louis XIV, etc., et que ça finit par désigner le contraire, hein, de ce que c'était au départ, et bal et ballet. Et la danse, ben, elle se retrouve dans les deux. Si j'avais le temps, je vous dirais un peu ce qui se passe en japonais et en sanskrit, mais je pense que c'est pas le cas. Et il y a sûrement des choses encore très intéressantes à entendre ensuite. D'autant plus que les danseurs et chorégraphes expressionnistes allemands, notamment, se référaient beaucoup à toutes ces questions abordées là. Voilà.
Merci Michel. Peut-être juste avant, effectivement, que... Merci. On enchaîne historiquement, qu'on fasse un petit bond. Je voulais juste faire réagir par rapport à ce qui a été dit, et Axel et Claire sur des termes. Je pensais à peut-être sur la question effectivement du cœur politique, puisque c'est ce dont va parler Axel Locatelli, du cœur de mouvement parlant. Comment effectivement cette choréa, enfin comment effectivement comment se relie, enfin là Michel effectivement fait un pont, fait un lien entre la danse des années 20-30 en Allemagne et puis cette question de l'Antiquité. Comment effectivement cette question politique grecque habite aussi ces cœurs mouvement parlant, cette question d'être citoyen en capacité, comme Michel disait. Tu n'as pas envie de répondre.
C'est-à-dire que... Bonjour à toutes et tous, pardon. C'est-à-dire que ça me prend un peu au dépourvu tant que j'ai pas un peu évoqué de quoi il s'agit. Peut-être on peut revenir sur la question, parce que la particularité donc des pratiques que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est quand même des pratiques qui sont extrêmement liées à un contexte très précis. Politique, sociale, et, enfin, culturelle et économique. Voilà, d'où... juste un petit mot pour dire merci aux organisateurs et organisatrices de m'avoir invitée aujourd'hui. Et donc, je vais vous parler... Alors, je vous ai mis le terme en allemand plutôt qu'en français, parce que finalement, la traduction que j'ai donnée en français... Je n'en suis pas très sûre, je suis toujours en train de chercher une traduction adéquate, j'ai envie de dire, de ce terme-là, Sprechbewegungskor, donc qui vient de sprechen, qui est parler, bewegen, qui est bouger, et le corps, qui est le cœur. Et donc ce sont des pratiques de danse qui ont été développées dans l'Allemagne weimarienne, plutôt à la fin des années 20 et au début des années 30, dans un contexte très particulier qui est celui des manifestations culturelles ouvrières, donc de la social-démocratie et du Parti communiste. C'est un sujet qui n'est pas à proprement parler mon sujet de recherche. Ça fait vraiment que c'est juste une toute petite partie de mon sujet de recherche, de thèse, qui était beaucoup plus large et qui concernait surtout les cœurs de mouvement en Laban, enfin ce chorégraphe danseur qu'on appelle Rodolphe Laban. Cette pratique-là des Sprechbewegungskör, ce sont plutôt des pratiques qui ont été très peu étudiées, hein, comme tu l'avais remarqué tout à l'heure, si ce n'est que par deux chercheurs allemands, Uwe Hornauer et Yvonne Hart, et puis un petit peu aussi en France par cette chercheuse spécialiste en histoire culturelle qui est Laure Gilbert. Donc juste pour vous dire que ce que je vous dis aujourd'hui, je m'appuie évidemment sur leurs recherches principalement, ainsi que sur la lecture et l'analyse de deux protagonistes de l'époque qui ont pas mal discuté sur cette pratique-là. Parce que c'est une pratique qui a fait controverse. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je me suis dit que j'avais envie de repartir quand même d'un petit contexte, mise en contexte historique, très bref. Juste pour vous rappeler, donc, dans les années 20 et 30, L'Allemagne est sous la République de Weimar, qui est un régime, enfin, dans une situation économique, politique et sociale qui oscille entre moments un peu plus stables et moments très instables. C'est aussi une époque de grand foisonnement culturel et artistique. Et c'est l'époque également où se diffuse ces mouvements qu'on appelle les mouvements de culture du corps, Körperkultur en allemand, qui sont nés dès la fin du 19e siècle. Hein. Et donc, ce sont des mouvements qui défendent une hygiène de vie assez particulière, une hygiène de vie basée sur ce que j'ai envie d'appeler une espèce de bain de nature. Hein. On cherche à prendre des bains d'eau, des bains de soleil, des bains de vent, des bains d'air frais, des bains de mer. On défend évidemment une nourriture végétarienne, le naturisme également. Et puis vraiment un exercice physique si possible en plein air. Et les cœurs de mouvement dont vont dériver les cœurs de mouvement parlants viennent s'inscrivent complètement dans ce contexte-là de nouvelles gymnastiques corporelles qui voilà un peu le... C'est un peu le corps saint, l'esprit saint dans un corps saint, si vous voulez. Et évidemment, très, très centré sur le modèle hellénique aussi. Et troisième particularité de ce contexte weimarien, c'est le focus depuis la fin du 19e siècle également. Un intérêt particulier, hein, et ça, je me réfère ici aux recherches d'Inge Baxmann, qui est également chercheuse allemande, spécialiste en études culturelles, et qui a publié dans les années 2000 tout un ouvrage sur le mythe de la communauté en Allemagne, et où elle explique que c'est l'époque où, que ce soit en anthropologie, en sociologie, en psychanalyse, en art, on cherche à développer, à trouver d'autres stratégies d'être ensemble, des stratégies d'être ensemble beaucoup plus fondées sur des liens communautaires, c'est-à-dire des liens plus émotionnels, plus affectifs, et des stratégies d'être ensemble qui viendraient en gros s'opposer à une manière d'être ensemble beaucoup plus... qui s'appuierait beaucoup plus sur le consensus, le contrat, la discussion. Donc en gros, c'est un peu la poursuite d'une discussion qui a été activée dès la fin du 19e siècle par un sociologue, Ferdinand Tönnies, et qui oppose société et communauté. Gesellschaft und Gemeinschaft. La société étant justement sur le modèle du contrat de Rousseau, hein, un peu, donc de comment on gère les liens sociaux par le contrat, par le consensus, par donc des choses un peu plus rationnelles, et comment la communauté, au contraire, cherche à travailler des liens beaucoup plus souterrains, beaucoup plus lié à des choses de l'ordre de l'affectif, de l'émotionnel. Et donc, c'est dans ce contexte-là que se développent les cœurs de mouvement et, à partir de 1927, les cœurs de mouvement parlant ou parlés. Je ne sais pas encore comment le... alors... Ah mince... Juste deux, trois mots sur les cœurs de mouvement là-bas, parce que sans ces principes-là, il sera complètement difficile de comprendre un peu la particularité des cœurs de mouvement parlant. Donc les cœurs de mouvement sont une pratique de danse qui s'adresse à des amateurs. Et d'ailleurs, je me souviens que je suis venue à Poitiers il y a 9 ans, 10 ans, pour... présenter le début de ma recherche dans les journées consacrées aux pères pratiques amateurs. Et donc, ce sont des pratiques qui se dessinent principalement, hein, je me répète, aux amateurs, qui sont à finalité non spectaculaire, même si entre la théorie, et entre le discours et la pratique, il y a certains écarts à relever, et qui ont un objectif double. à la fois permettre aux participants de développer leurs capacités motrices, leurs possibilités gestuelles, et en même temps de les inviter à performer de différentes manières, différentes figures de l'être ensemble, donc à essayer de d'éveiller, et affiner, aiguiser, ou en tout cas déployer un certain sens de l'être ensemble et de liens communautaires, de la collectivité. Donc ce sont des pratiques qui se veulent ludiques, qui s'appuient à la fois sur des moments improvisés, des moments d'improvisation guidés par ce qu'on appelle un chef de cœur, mais aussi par parfois l'exécution de danses composées. Donc là, je vous ai mis une image d'une danse qui date de 1926 et qui s'appelle Idolâtrie, qui a été composée par Rudolf Laban et un de ses collaborateurs, Albrecht Knust. Donc en fait, la particularité, je vous en montre une autre ici, la particularité de ces danses-là, c'est un peu à l'image du cœur vocal, c'est-à-dire qu'on va travailler des unissons, on va travailler de la polyphonie, et l'idée c'est vraiment de rechercher une harmonie par le biais non pas... d'un accord entre des voix, mais d'un accord entre des mouvements. Hein, donc entre des hauteurs, des dynamiques, des rythmes, des directions de mouvement. Et ici, par exemple, vous avez je vous ai mis cette image parce que je la trouve assez parlante de la recherche spatiale de l'époque, où vous avez la recherche de créer une espèce d'harmonie donc entre ces trois groupes qui forment le cœur, et une harmonie vraiment basée sur une occupation spatiale en spirale. Je ne sais pas si vous arrivez à le distinguer. On a vraiment ce passage-là d'un groupe qui est plutôt donc dans le niveau bas, on dit ça en cinétographie Laban. Et puis on va passer à un groupe qui occupe plutôt un niveau un peu plus moyen, et avec dans le fond un groupe qui lui est dans l'ouverture et qui va chercher davantage le niveau haut. Donc on va essayer de créer comme ça une harmonie de mouvements. C'est pour ça que je parle de cœur de mouvements, et je mets mouvement au pluriel, alors que dans le terme allemand Bewegungskorps, le terme Bewegung est au singulier. Je trouve beaucoup plus approprié de le mettre au pluriel, dans la mesure où c'est vraiment cette recherche-là de créer spatialement, mais aussi de manière dynamique, un accord entre différentes séquences de gestes. Et donc certains élèves et collaborateurs de Rudolf Laban qui sont formés au cœur de mouvement vont mettre ces pratiques amateurs, vont employer, on va dire ça comme ça plutôt, ces pratiques amateurs dans les manifestations culturelles ouvrières de la social-démocratie et du Parti communiste. Et à la fin des années 20, une pièce. Alors, je suis désolée, hein, la photo est pas d'une très bonne qualité, qui s'appelle Der gespaltene Mensch. Cette pièce-là, c'est la première pièce de cœur de mouvement parlant ou parlé, qui est présentée donc à la Volksbühne de Berlin. Le texte et la mise en scène est de Bruno Schönlank, et la chorégraphie de Berthe Trumpy et Vera Skoronel, deux danseuses qui ont travaillé avec Marie Wigman principalement, mais Berthe Trumpy a été formée par Laban et a suivi, enfin a été formée en cœur de mouvement. Voilà, juste pour vous dire que c'est la première fois que l'on va combiner la parole et le geste en un seul cœur, parce que dans les pratiques, enfin dans les habitudes des fêtes ouvrières jusqu'à présent, le cœur de mouvement et cœur parlé ou chanté étaient séparés. C'est-à-dire que le chant et la déclamation étaient pris en charge par d'autres groupes et la danse par d'autres chœurs. Là, c'est la première fois que Bruno Schoenlang propose une forme qu'on va appeler hybride, hein, qui mélange les deux. Et cette forme va susciter controverse. Certains vont la trouver très pertinente, d'autres au contraire vont la trouver vont beaucoup la critiquer. Vous allez le voir. Je vous propose du coup pour un peu vous faire entrer dans le cœur de cette controverse, de me pencher sur le conflit entre deux élèves de la BAN. Martin Gleisner et Otto Zimmermann, qui tous deux donc sont sociaux-démocrates, qui tous deux sont spécialistes de cœur de mouvement et qui tous deux ont vraiment une vision du cœur de mouvement parlant extrêmement opposée. Pour Martin Gleisner, je vous ai mis un peu des images de son travail. Pour Martin Gleisner, et ça, il reprend ça de Rudolf Laban, hein, il y a trois domaines de l'expression humaine. La musique, la poésie et la danse. Et à ses yeux, chaque art propose des formes et des contenus qui leur sont propres. Je vous le cite. Il y a des choses que l'on ne peut que dire, des choses que l'on ne peut que chanter et des choses que l'on ne peut que danser. Voilà, c'est une phrase qui est tirée de son ouvrage « La danse pour tous », paru... Ah, j'ai un trou de mémoire. En 1928, je crois. Et donc pour lui, pour Martin Gleisner, la fusion parfaite de la voix, de la parole et du mouvement est une illusion. Et elle réduirait la force expressive de l'un ou de l'autre. Parce que pour Gleisner, la force du cœur de mouvement, comme il l'a appris chez Laban en fait, hein, la force de ce cœur-là, c'est de permettre aux ouvriers participants de faire l'expérience sensible et kinesthésique de l'harmonie, de l'accord, de la communauté, du collectif. Sans passer par une compréhension qui serait de l'ordre plus intellectuel, plus rationnel. Et à ses yeux, c'est ce qu'implique l'usage de la parole, l'usage et notamment d'un discours. À la différence, Otto Zimmermann, il est plutôt très enthousiaste à la naissance de cette forme hybride parce qu'il trouvait que les fêtes ouvrières devenaient un peu ennuyeuses. À ses yeux, elles manquaient de préparation, elles n'étaient pas assez travaillées, elles étaient faites un peu à la dernière minute. Et les chœurs parlés n'avaient plus assez de force. À ses yeux, il n'y avait plus assez de participants. Et donc, il se réjouit de la naissance de cette forme hybride. Combien de temps il me reste? 2-3 minutes. Alors, je vais faire... Vous dire quoi? Vous dire que du coup, dans un article, c'était un peu ce qui me paraissait plus intéressant en même temps. Vous dire que dans un article, il va expliciter ce qu'il faut en fait pour entraîner les participants à ces cœurs-là. Parce que d'après lui, comme c'est une forme très spécifique, c'est pas une forme qui combine deux autres formes, c'est vraiment une troisième forme intermédiaire. Tout à l'heure, Michel Bernard disait que Michel. Michel Ouryat. Je suis désolée. Ça m'a échappé. Je suis trop concentrée. Donc, tout à l'heure, Michel expliquait que la dichotomie était toujours à remettre en cause, Et un peu, c'est un peu ce qui se passe ici avec cette troisième forme de cette forme hybride. Et donc pour Otto Timmermann, il faut des gens spécifiquement, il faut un entraînement spécifique, il faut un chef de chœur qui ait une formation spécifique, et il faut des œuvres spécifiques. Et donc dans un article qui date de 1930. Qui s'appelle le cœur de mouvement parlant, hein. Il explique ce que ce serait que cet entraînement des participants. Cet entraînement serait à la fois corporel, hein, avec comme mission première peut-être de défaire les tensions chez les ouvriers, les tensions accumulées avec leurs conditions de travail en usine. Et puis de les inviter à trouver des mouvements qui vont mobiliser l'ensemble de leur corps. Donc c'est tout des exercices de balancer, de tirer, de presser, de pousser, de frapper. Donc en fait des exercices qui vont vraiment travailler la notion de force. Hein, à cette époque-là, Rudolf Laban, on ne parlait pas vraiment de poids, mais plutôt de force. Donc de travailler la résistance, mais en même temps la suspension également, pour aller vers le saut. Et avec une forte activation du centre du corps, au niveau du bas-ventre. À ces exercices corporels, il fallait ajouter des exercices respiratoires qui permettent de prendre conscience du flux respiratoire et de le maîtriser en l'allongeant, en le raccourcissant, en le fragmentant. Et donc, on combinait comme ça des exercices de mouvement et de respiration. Tout à l'heure, avec Claire, on a fait, par exemple, une inspiration, très souvent, c'est davantage lié avec un mouvement d'ouverture, et une expiration davantage reliée avec un mouvement de fermeture. Donc voilà, c'est travailler cette combinaison-là. Et c'est travailler aussi à comment on respire ensemble. Donc comment on inspire ensemble, à quel moment on commence à inspirer ensemble, combien de temps dure l'inspiration. À quelle intensité, quelle dynamique, quelle durée, comme ça je vous l'ai dit, donner à cette inspiration. Et puis ensuite, il y avait des exercices d'expression orale, je vais vite, hein, pardon, pour trouver la bonne posture de la tête, pour ne pas comprimer le larynx, d'ouverture de la bouche, d'articulation, de rythme aussi, de déclamation. Des exercices de mouvement de groupe, un peu comme on le voit là, donc à l'unisson ou au contraire en plusieurs groupes. Et la partie la plus frustrante pour moi, parce que la moins décrite, c'est des exercices combinant pratique de mouvement et parole en chœur. Et donc, comment ces exercices-là, que Timmermann ne décrit pas, ou de manière très, vraiment très compliquée à comprendre, très compliquée à comprendre dans la mesure où il expose ça à partir de photos, donc sans dynamique de mouvement et sans la voix, c'est extrême, enfin, c'est pas lisible en fait. Et donc, ce qu'il explique quand même, c'est que l'idée, c'est de chercher à accorder ce qu'il appelle la plastique du mot et la plastique du mouvement, d'accorder la qualité du son et du mouvement, d'accorder les dynamiques, d'accorder les rythmes. Donc, en fait, c'est un discours, et je termine là-dessus, c'est un discours dans lequel la question, par exemple, de la primauté du sens, de sa compréhension ne se pose pas. Parler est un geste dansé, en fait. Parler est un geste dansé, et les chœurs de mouvement parlant mobilisent en fait toutes les capacités gestuelles de leurs participants. Et donc la question qui avait vraiment opposé en 1927 la nécessité de la parole pour convaincre, elle ne se pose pas pour Otto Timmermann. Voilà, je m'arrête là parce que sinon... Merci. Claire va rappeler.
Merci beaucoup, Axel. Moi, ça me fait beaucoup penser, en tout cas, à Tumulus. Alors, dans une autre, évidemment, on n'est pas dans un, dans une voix parlée, on est plutôt dans un chant. Mais effectivement, comment des chanteurs professionnels et des danseurs professionnels ont trouvé des moyens. Je sais que François Chéniaud et Geoffroy Jourdain ont travaillé pendant 2 ou 3 ans et trouvé des moyens, effectivement, de trouver cette nouvelle forme, cette troisième forme qui ne serait pas ni de la danse, ni du chant, mais quelque chose qui réunirait, effectivement, une manière... De ne plus faire de distinction. Et effectivement, dans cette pièce Tumulus, on a cette impression, en tout cas, on ne distingue pas vraiment qui serait le danseur, qui serait le chanteur, et s'invente effectivement une polyphonie et une communauté qui n'est pas effectivement, ne porte pas un sens, mais porte un souffle, exactement comme ce qui était dit là. On n'est pas dans le message adressé, mais en tout cas dans le cœur communauté. Et souffle commun et s'accorder aussi. Ouais.
Il y a un des gros reproches qui a été fait justement au mélange de. Et que Gleisner faisait au mélange de corps et voix, c'était que le corps venait illustrer ce que la voix disait. Et ce que Otto Zimmermann vraiment cherche à démontrer le contraire.
Et peut-être pour rebondir aussi avec Claire, qui n'est pas forcément dans une pratique chorale, hein, dans cette pièce 440 Hz, mais il y a quelque chose quand même que je trouve qui se relie, c'est inventer un autre langage avec quelqu'un qui effectivement qui est chef d'orchestre, donc qui a une pratique musicale et gestuelle, mais qui n'est pas une pratique gestuelle chorégraphique. Et il y a cette question aussi de s'accorder, qui est revenu un peu dans tout ce dont on a discuté sur la question du cœur, puisque 440 Hz a une signification très particulière, mais je te laisse la poser, qui est effectivement cette question de l'accord.
Bonjour. Oui, donc 440 Hz, c'est la note, le La, en fait, qui est donnée à chaque début de concert, sur laquelle, cette note sur laquelle tout l'orchestre s'accorde. Donc il y a des toutes petites variations suivant les temporalités et quel pays aussi. Mais c'est vraiment des infimes différences. La note La est donnée à chaque début de concert par le premier violon et tous les autres instruments s'accordent autour de cette note comme un consensus avant de faire cœur, justement, et de tisser ensemble des harmonies, des disharmonies, enfin bon, tout ça. Et moi, très vite, ce titre, il est venu assez rapidement dans mon esprit, car j'ai rencontré donc le chef d'orchestre Jean-Luc Tingot il y a 3 ans, lors du confinement. Il n'avait pas de travail, je n'avais pas de travail, et on s'est dit, on avait quelques espaces et on s'est rencontrés. Vraiment, au début, c'était de manière complètement expérimentale. On a beaucoup, beaucoup parlé, beaucoup échangé. Et très, très vite, moi, il m'est apparu une matière. Si ce n'est formel, en tout cas chorégraphique, que j'avais envie de creuser avec lui. Ça a pris du temps, car en effet, Jean-Luc n'est pas danseur. Je ne suis pas non plus musicologue ou musicienne, malgré mes 4 ans de piano quand j'avais 6 ans, quoi. Donc, il fallait trouver une manière de... Alors, s'accorder, mais ça s'est fait aussi avec beaucoup de tension. Mais moi, je trouve que la tension, c'est aussi source de d'échanges et fabrication, si je peux dire. Et donc on a beaucoup échangé et on a commencé à se plonger dans des petits cas pratiques, des expériences. Il m'a initié à la direction d'orchestre, ce qui n'était pas rien parce que je me suis jamais retrouvée face à un orchestre jusqu'à ce jour. Et moi, je l'ai initié plus au mouvement dit chorégraphié, à certaines notions, mais très très vite, notre champ commun, c'était vraiment le rythme. On a aussi énormément utilisé la voix. Les chefs d'orchestre travaillent au début à la table. Ils ont leur partition et ils se la chantent, quoi. Et c'est tout en onomatopée, comme nous, on fait les danseurs, tic-tac-boom, 5, 6, 7, 8, quoi. Donc il y avait vraiment quelque chose comme ça de l'ordre de la voix qui a été aussi un outil pour nous pour travailler et qu'on a utilisé après aussi dans le spectacle. Et puis après... Moi, ce qui me fascinait, en fait, et ce qui me fascine toujours dans la posture du chef d'orchestre, c'est que pour avoir aussi observé beaucoup de chefs d'orchestre différents, il n'y en a pas un qui a le même état. Donc ils se retrouvent un peu dans une technique, on va dire, technicité du chef d'orchestre qui va, avec la main gauche, donner la couleur, l'émotion du morceau qu'il interprète, et avec la main droite, vraiment, il donne le rythme et le tempo. Donc il y a aussi une coordination, une dissociation qu'on connaît aussi plus ou moins chez les danseurs. Et après, moi, ce qui m'intéressait, c'est que, en tout cas pour Jean-Luc, il n'a pas tellement conscience de ce qu'il fait quand il le fait. Donc il est vraiment pris par le geste. Et ça se voit d'ailleurs, moi je l'ai observé dans des concerts où il dirige des opéras, c'est encore plus... ça crève les yeux, où il est comme traversé par la musique et une intention, parce qu'il ne se laisse pas non plus déborder. Il dirige tout un nombre d'hommes et de femmes musiciens qui eux-mêmes jouent des instruments, et donc il veut vraiment leur insuffler une direction précise. Mais lui-même n'a pas conscience tellement de ce qu'il fait. Et donc, on a essayé de retrouver un peu ce moment magique du mouvement qu'envahit le corps, du souffle, de... Je sais pas trop comment je pourrais exprimer ça, mais... Ouais, il y avait vraiment, dans sa manière de diriger, une espèce d'envol. Ça le prenait, quoi. Et donc, on a beaucoup cherché autour de ça, de qu'est-ce qui fait l'émotion d'un mouvement, qu'est-ce qui fait la musicalité d'un mouvement. Moi je peux partir là. Non mais il y avait, c'était vraiment notre terrain de jeu dans la contrainte aussi des musiques qu'on aborde. Donc c'est l'Adagietto de Mahler et certains morceaux de la symphonie Daphnis et Chloé de Ravel. Donc chacun, en fait, on s'est dit, on amène un morceau qu'on adore, qui vraiment nous fait décoller. Et moi, Mahler, l'Adagietto, c'est un morceau qui me suit depuis des années, dans son lyrisme dégoulinant, dans ses grandes envolées, dans sa tragédie, dans son tragique, ça me plaisait beaucoup. Et lui-même a été l'élève de Rosenthal, qui était lui-même l'élève de Ravel. Donc pour lui, il y a une espèce de descendance avec Ravel, il l'a dirigé plusieurs fois, et c'est un compositeur qui l'admire et qui l'aime beaucoup. Donc il est venu avec Daphnis et Chloé dans son bagage, qui est complètement différent, bien qu'appartenant plus ou moins à la même période, dite romantique, début du XXe siècle. Il y en a un qui est un peu plus âgé que l'autre, mais voilà, ils se suivent de peu. Et donc, on s'est appuyé sur ces deux supports pour aussi avoir un support musical commun pour pouvoir commencer à dialoguer ensemble. Parce qu'évidemment, nous n'avons pas d'orchestre. Donc,
oui, il y a quelque chose d'ailleurs dans l'organisation de l'espace qui me refait penser à ce que disait Michel sur l'orchestra. Puisqu'effectivement, à la place de l'orchestre se situe le public.
Vous.
Voilà, et donc effectivement, on se retrouve un peu comme tout à l'heure quand on vous a regardé d'ici faire suivre Claire. En fait, il y avait cette impression effectivement d'être face au cœur. Enfin, en ouais. tout cas, d'être face à quelque chose effectivement qui se joue. Et il me semble que c'est en arc de cercle, c'est ça ?
Bah alors, pas forcément. Ça dépend des lieux.
Okay.
Ça dépend des lieux. Beaulieu s'y prête un peu, mais c'est un peu ce que disait Michel. En effet, c'est que d'un seul coup, c'est les spectateurs qui sont le cœur et à qui on s'adresse. Donc nous, on avait vraiment... Puis moi, j'avais vraiment envie aussi de faire face dans... Le chef d'orchestre, il est la plupart du temps de dos. À part quelques salles de concert comme la Philharmonie de Paris où il y a quelques privilégiés qui peuvent le voir de face, il est rare de rentrer vraiment dans l'intimité de la gestique d'un chef d'orchestre. Et donc, je voulais basculer un peu tout ça et avoir une adresse un peu plus franche aussi... au public, même si là on sera à Beaulieu dans une salle noire, dans une boîte noire, voilà, on se joue aussi des corps, de la voix, des expressions, du visage. Et puis moi, c'est quelque chose après qui, dans mon parcours, me tient particulièrement à cœur, car comme tu l'as dit, je suis aussi comédienne, je fais aussi des voix off. Donc il y a chez moi une grande curiosité d'expansion. Je suis formée par la danse, par le mouvement, mais au fur et à mesure, j'ai eu vraiment envie je me sentais un peu cloisonnée, quoi, de sortir de certains schémas, de choses qui sont définies. Et puis voilà, ça va un peu à l'image de mon parcours, quoi.
Et justement, comment s'est fait ce partage sur la voix? Parce que, comme tu disais, les chefs d'orchestre aussi utilisent évidemment la voix, et pour diriger en répétition, peut-être pas en concert, mais en tout cas avant.
En fait, c'était le seul moyen qu'on pouvait de se comprendre. Alors moi, j'ai réécrit des partitions aussi, pour qu'on puisse les lire ensemble, avec une notation qui est complètement la mienne, pas forcément la bonne, même si je l'ai étudiée. Mais voilà, de dessin, de voix, de nomatopée, de chant, beaucoup, pour avoir les mêmes dynamiques. Et après, le geste est venu après. Donc, on a vraiment travaillé comme ça à la table aussi, pareil, pour pouvoir se rencontrer et pour pouvoir que je puisse après moi définir plus ou moins une forme, même si une partie du spectacle est aussi improvisée. Mais bon, voilà, on a beaucoup chanté.
Et j'imagine que du coup, il quitte aussi cette posture de guide, ou en tout cas de diriger. Ouais. C'est Geoffroy Jourdain donc, qui a participé à la pièce Tumulus, qui racontait qu'effectivement, sur Tumulus, ni François Chéniaud ni lui ne sont au plateau, et que du coup, dans ces chœurs polyphoniques, il y a cette manière de s'accorder seul, sans guide. Et il y a notamment ce geste au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, il se tapote, qu'ils appellent le tactus, qui est une manière de s'accorder et en rythme et en corps. Et donc là, je me demandais effectivement comment un chef d'orchestre qui est habitué à guider ouais. beaucoup de musiciens, comment il se défait de cette question de guide et comment il s'accorde à toi, du coup, ouais. puisque vous êtes que deux.
Alors après, Jean-Luc Tingo, il était hyper curieux. Il a quelque chose aussi de l'ordre de... il y a quelque chose de juvénile chez lui. Il est beaucoup dans le jeu. Donc ça, c'était très appréciable pour moi parce qu'il était très partant. Très partant pour tout ce que je lui proposais. Après, je parlais de tension tout à l'heure. En effet, je collabore avec un homme plus âgé qui a l'habitude de diriger. Bon, il y avait forcément par moments un accordage à faire ou à opérer. mais je crois que c'est intéressant aussi, même si c'est un challenge. Je pense que moi, j'avais envie de mettre ça en scène et de ne pas rester dans quelque chose de complètement lisse. Je ne suis pas chef d'orchestre, il n'est pas danseur, donc on ne va pas s'improviser, quoi. Donc on reste chacun à notre place, mais on essaye de se teinter l'un et l'autre, de s'envahir, de s'embêter un peu aussi. C'est vrai que pour lui, je pense, comme pour moi, ça a été un vrai défi de se laisser faire un peu.
Justement, j'imagine qu'il y a aussi une contagion des rôles et des places dans de ce qui était évoqué aussi dans les chœurs de mouvements parlants. Il y a la question de l'amateur, c'est-à-dire toi finalement tu es amateur dans la pratique de direction d'orchestre et lui amateur en danse, c'est-à-dire que c'est aussi comment chacun accepte de ne pas savoir
oui.
et de ne pas savoir faire.
Oui, complet. C'est un peu une pièce d'amateur. Mais carrément. Et aussi, il y avait quelque chose que j'ai pas dit, c'est que pour lui... Il n'y avait pas trop d'enjeux ni d'intérêt puisqu'il n'y avait pas de musiciens. Donc, la question de l'imaginaire, de nourrir ça, de le réinvoquer, j'ai réalisé que nous, danseurs, c'est quelque chose qu'on faisait au quotidien. De nourrir cet imaginaire qui nous met en mouvement. Et que lui, bon, bah, il peut bouger, très bien, mais il n'y a pas d'orchestre. Comme son mouvement n'a aucun impact musical, il voyait pas trop l'enjeu. Et donc, on a dû user de subterfuge, et de jeu pour nourrir cet imaginaire-là et que quelque chose arrive, en fait. Qu'il se passe quelque chose. Parce que moi, c'est ça qui m'importe aussi, c'est qu'il se passe quelque chose et, à la fin, on sort pas indemne de ce qui s'est passé, quoi. On est enduré. Mais c'est sûr que la musique enregistrée nous donne un peu une structure qui est là et qui est immuable et qui bouge pas. C'est à nous, à l'intérieur, de bouger. Donc ça, c'était aussi un autre défi. Voilà.
Merci beaucoup Claire, je sais que tu dois partir dans pas très longtemps, je voulais juste laisser un tout petit temps de questions parce qu'on a un peu de retard déjà, voilà, savoir s'il y avait des réactions par rapport à la fois ce que vous avez vu dans le festival, ce que vous avez entendu là, des pratiques peut-être que les uns et les autres auraient dans ces relations voix et corps.
Et des voix muettes, mais des corps qui sont là quand même.
Ben, je veux bien, c'est pas un effet de ma bonté, mais il y a quelque chose qui m'apparaît auquel j'avais pas pensé avant. Parmi les binarités toujours à déconstruire, c'est celle du cœur et solo. Parce que en fait, quand on fait un solo, on est quand même plusieurs. Et les solos les plus extraordinaires, ce sont ceux, comme ceux de la pantomime gréco-romaine, où on se métamorphose, où on est plusieurs personnes à la fois, ou bien on est le vent, etc., comme tu disais. Et puis, de toute façon, dans un chœur, ça change. C'est-à-dire, il y a un solo qui peut s'en dégager, il y a... voilà. C'est pour dire que là, le sujet, c'était le chœur. Mais en fait, on était vraiment dans le sujet du corps et de la voix qui va passer par différentes formations en mouvement, quoi, en mouvement, en métamorphose constante. Voilà.
Vous l'avez évoqué, mais est-ce qu'il y a des chercheurs qui ont fait un lien entre cette histoire du cœur et les manifs actuels, tout ce qui est mouvements sociaux ? Est-ce que vous avez des références ? Par rapport à ce rituel, voilà, d'être ensemble, ça fait référence à Martine, j'ai pas retenu son nom dans l'Allemagne. Voilà, elle a travaillé avec les chœurs d'ouvriers. Est-ce que vous avez une référence ?
Ben, je suis coupable. Il y a un article en ligne où j'étudie Nuit debout. Les fémènes, les interventions chorégraphiques carnavalesques des fémènes, et puis des interventions de Stephen Cohen, par exemple Stephen Cohen intervenant au Trocadéro. Et Judith Butler, par exemple, s'est intéressée avec une collègue grecque dont je me souviens plus le nom, mais son prénom c'est Athéna. Bon. Donc Judith Butler sur la politique des corps en mouvement, ça c'est un sujet important pour Judith Butler, mais dans les espaces publics et en particulier les occupations de place ou comme il y a eu beaucoup. Donc en fait il y a des gens qui s'intéressent à ces questions là. Je pense que l'ouvrage de Judith Butler, ça peut être bien. Je ne sais plus le titre non plus, mais il est question des corps politiques en mouvement, occupant l'espace, quoi. Voilà. Et dans mon article en ligne, il y a des renvois bibliographiques que j'ai pu entendre.
Je peux rajouter aussi les recherches de Loire Escobar, qui travaille sur les danses en lutte. En fait, et sur les gestes récurrents notamment les Black Lives Matter. Donc, tous les points liés et comment ces gestes-là viennent à un moment, permettent à un moment donné de performer du collectif. Alors là, par contre, le titre de son article, c'est dans une revue, dans la revue Esclavage et Post-Esclavage, Je vais vous le retrouver et je vous le dis tout à l'heure à la pause.
Un dernier élément de réponse. Là, je vois Volmir Codero dans la salle. Je suis sûr que là-dessus, il a des choses à dire aussi. Voilà.
Eh ben, c'est une très bonne transition, effectivement. Puisqu'on va donc clore cette table ronde. Ah, non, il y a une autre question.
Ouais, c'est pas vraiment une question, plutôt une remarque, parce que j'ai fait de l'orchestre moi pendant plus de 10 ans, et en fait jusqu'à présent j'avais jamais considéré les mouvements du chef d'orchestre ou de la chef d'orchestre comme de la danse, et justement votre intervention, elle c'est un peu une révélation de dire bah oui, en fait pourquoi est-ce que j'ai jamais considéré que c'était de la danse, et voilà, donc j'ai vraiment très hâte de voir la pièce demain. Voilà, merci en tout cas pour cette révélation.
En lien, du coup, je conseille aussi d'aller voir 440 Hz, mais aussi ce qu'apparaît de Mathilde Bonicel, qui va intervenir aussi juste là. Et je pense aussi, mais ça c'est en discutant avec Michel aussi, on a pensé tous les deux à la pièce de Xavier Leroy qui s'appelle Le Sacre, ou Le Sacre du Printemps, ou Le Sacre, où en fait il performe le Sacre du Printemps face au public, enfin, ils performaient, aujourd'hui ils l'ont transmis, ils sont trois il me semble, donc ils sont en train de rejouer cette pièce qui est ancienne. Et lui, il dit qu'il s'est aperçu en regardant une vidéo de Simon Rattle devant le Philharmonique de Berlin, qu'en fait il s'est rendu compte que le chef d'orchestre n'était pas là que pour guider, mais qu'en fait il ressentait et il bougeait sur la musique et non pas dans l'idée de la... Il disait, moi je pensais toujours qu'un chef d'orchestre, il l'anticipait. Et qu'en fait là, il se rend compte que tout d'un coup, il vit la musique dans un temps présent, pas seulement pour guider, que l'orchestre a l'air de savoir à peu près ce qu'il fait. Et donc de cette idée vient l'envie de performer face, donc comme le fait Claire, face publique. Ouais. Et voilà. Et du coup, maintenant, ils le font à trois, donc un peu en chœur. Ils le faisaient seuls et maintenant, c'est des danseuses, il me semble, ces trois femmes qui le performent.
Ouais, mais je l'ai vu. Ouais, mais je l'ai vu à trois, en effet. Après la rencontre avec Jean-Luc, et donc j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial de voir. Ça, je ne sais plus où c'était d'ailleurs. Bon, c'était ma seule intervention.
Bonjour. Je me posais la question par rapport à la grâce, parce que je trouve qu'il y a un lien. Enfin, moi, j'ai déjà été frappée justement par le chef d'orchestre, où il y a, enfin, avec la musique, il y a vraiment cette notion de grâce, comme aussi dans la danse classique, une sorte de, ouais, d'unité entre la musique, l'âme, le corps. Je ne sais pas ce que vous pourriez dire par rapport à ça.
Oui, je suis assez d'accord. Il y a un truc un peu même divin, touché par la musique, par la grâce. Ça fait un peu référence à ce que je disais tout à l'heure. J'ai aussi été... Il y a un concours de femmes chefs d'orchestre à Paris qui s'appelle la Maestra, où j'ai été et j'ai beaucoup observé. Et il y a vraiment, encore une fois, chaque femme n'avait pas du tout la même manière de bouger parce qu'aussi, elle n'interprétait pas le même morceau musical. Donc quand il y a quelque chose de très contemporain, staccato, on ne sera peut-être pas dans un lyrisme du mouvement, mais plutôt dans des mouvements arrêtés. Mais quand même, il y a quelque chose de l'ordre de... Ouais, presque un espace divin entre le chef d'orchestre et l'orchestre. Entre, je ne sais pas, il y a quelque chose de vertical, puis horizontal, circulaire, il y a ouais, mais c'est en même temps ça vient illustrer la musique, en même temps ça la devance un petit peu quand même, et en même temps il y a des mouvements qui leur échappent, ils lâchent le rythme, ils reprennent le rythme, ils peuvent pas se laisser aller complètement parce qu'en fait c'est quand même eux qui tirent le navire, donc il y a plein de choses qui se passent quoi. Et un orchestre pourra dire si le chef d'orchestre était dedans ou pas. Des orchestres sont en résistance avec des chefs d'orchestre qu'ils n'apprécient pas. Si c'est une femme, c'est compliqué aussi. Un peu moins aujourd'hui, mais jusqu'à il y a quelques années, c'était compliqué. Donc il y a plein de choses qui viennent, qui rentrent un peu dans la marmite, et ce qui fait que le moment est exceptionnel ou pas, parce qu'on parle aussi de ça.
Et vous ne trouvez pas que c'est ça qu'on cherche aussi dans la danse, enfin, cet état, ce même état?
D'une certaine manière, ouais. En tout cas, ça peut être un de ces états-là qu'on cherche. Pas que, je pense. Mais oui.
Dans la pièce, justement, quel état vous recherchez ?
Dans la pièce, alors il y a vraiment, on passe par une lecture très intime de la musique à un dialogue et une négociation constante. Donc il y a aussi beaucoup de négociations, et la musique, elle vient nous soutenir, ou on vient s'y confronter et on vient plutôt s'en éloigner. Donc on passe par plusieurs états. Ouais, on a un peu trituré tout ça. Merci.
C'est juste pour dire qu'on a fait presque une boucle, puisque Michel, au départ, a parlé de tension, tense. Et voilà, la tension, elle est toujours présente. Dans une forme de duende, peut-être aussi. Allez.
Ben merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois.